Bonjour à toutes et à tous, vous nous écoutez à Boire, à Bozoum, Berberati, Mambre Kadeye, Sangambayere. En France, partout dans le monde, vous ne vous êtes pas du tout trompé de fréquence. C'est bien les 100.1 FM Radio Ndikiluka et c'est votre émission Patara, le débat politique de ce premier média centrafricain. Nous allons débattre de la gestion de la pandémie de Covid-19 en Centrafrique, détectée en Chine en décembre 2019. La maladie à coronavirus a commencé son bon nombre de chemins dans ce pays populaire asiatique avant d'envahir tous les pays de l'Europe le 10 mars 2020, puis le tour de l'Afrique et le monde tout entier. Boom de contamination. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avait annoncé que la Covid-19 est donc désormais une pandémie. C'est une guerre sanitaire mondiale qui s'impose aux États sans exception. La République centrafricaine n'est pas du reste. Le 14 mars, le premier cas de contamination a été signalé. Automatiquement, le pays a été mis en alerte. Le gouvernement a confiné le peuple. Les autorités ont pris des mesures pour barrer la route à la propagation de ce virus mortel. À cet effet, les amis de la République centrafricaine se sont montrés solidaires pour lui voler au secours en lui apportant des dons en argent ou en matériel pour la protection contre cette maladie. Des milliards de francs CFA ont été encaissés par le gouvernement pour combattre cette pandémie. La pandémie de Covid-19 prend une nouvelle ampleur. En moins de 72 heures, le monde a enregistré près d'un million de nouveaux cas. Le coronavirus a déjà tué près d'1 180 000 personnes. Ici, en République centrafricaine, pays de Zokweso, les contaminations ralentissent depuis l'arrêt du dépistage systématique. Depuis le 20 octobre, le nombre des malades est de 4855 cas, dont 1933 guéris et 62 décès. Des voix continuent de critiquer la gestion de cette infection pulmonaire, virale, oui, et respiratoire, à savoir l'opposition démocratique, la société civile et aussi le personnel soignant qui observe une grève de 8 jours pour réclamer leurs primes liées à la lutte contre cette pandémie. Eh bien, pour en parler, je reçois autour de cette table Dr Ghislain Bantas, représentant du ministère de la Santé publique. Monsieur Bantas, bonjour.
Bonjour.
Docteur Hugues Benjamin Baliwa, représentant du syndicat du personnel de la santé. Monsieur Baliwa, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gervais Lakosso, coordinateur du groupe de travail de la société civile. Monsieur Lakosso, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à tous les auditeurs.
Monsieur Mouamar Bengue Bossin, politologue et conseiller en communication de l'ancien président de la République, François Bozizé, opposant. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Jean-Symphorien Mapézi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, cadre du MCU, parti du président de la République. Monsieur Mapézi, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de Koulou.
Au centre de ce débat politique, j'ai su Armando Yanguindi et à la manette, c'est le travail de Tarsis Banga. Nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekiluka.
Merci beaucoup. Ouvrons ce débat avec vous, docteur Ghislain Bantas. Que fait concrètement le ministère de la Santé face à cette pandémie qui continue de décimer le monde ?
Merci, monsieur le journaliste.
Oui, appelez-moi Armando.
Oui, Armando, merci. Merci pour l'introduction et pour cette question. Comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, depuis que la pandémie a été déclarée, le ministère de la Santé publique a commencé tout de suite à mettre en place des mesures pour la riposte à la pandémie. Dans un premier temps, ce que le ministère a fait, c'est de se doter d'un plan, un plan de riposte, de sorte qu'on puisse coordonner les interventions sur le terrain pour mieux maîtriser la pandémie. En plus du plan qui a été fait, il y avait un plan global qui a été fait, un plan d'urgence également a été élaboré, et c'est sur la base de ce plan d'urgence que le ministère de la Santé a travaillé. Au-delà de ce plan d'urgence, un certain nombre de comités a été mis en place, 4 comités principalement. Il y a le comité de crise qui est présidé par le président de la République, son excellence Faustin Touadéra.
Oui.
Il y a le comité technique qui est sous la présidence du Premier ministre. Il y a aussi un autre comité, le comité stratégie et méthode, et enfin un autre comité, c'est la coordination technique qui assure la lutte contre cette pandémie. Mais au-delà de ces quatre comités qui ont été mis en place, il y a des organes décentralisés qui ont été mis en place pour la gestion de la pandémie à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Merci beaucoup. On va revenir. Docteur Hugues Benjamin Baliwa, le personnel de la santé que vous représentez ici, hein, observe 8 jours de grève pour protester contre leurs conditions de vie en cette période de Covid-19. C'est quoi vos revendications ?
Merci Armando. Le personnel soignant a décidé d'observer une grève de 72 heures. C'est par rapport au comportement des autorités du ministère des Finances. Le ministre de la Santé a initié une note afin de verser au personnel soignant leur prime de Covid décidée.
Et ce prime s'élève à combien par exemple ?
Oui, cette prime-là, c'est 33 000 francs par mois sur 6 mois. Cela a donné un total de 260 417 francs.
Par agent ?
Par agent, réparti de manière équitable jusqu'au plus bas niveau de l'échelle. Alors, nos collègues du ministère des Finances, le document leur est parvenu depuis le 5.
Le 5 de ce mois ?
Le 5 de ce mois. Jusqu'au 21, aucune suite. Et c'est comme ça que la fédération a décidé de rentrer dans la danse.
D'accord, nous allons revenir pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette gestion de Covid-19. Monsieur Gervais Lacosso, quelle observation faites-vous de la gestion de Covid-19 par les autorités ?
Je dis d'abord grâce à Dieu, parce que à mon avis, si cette pandémie s'était réellement manifestée dans notre pays, on devait aujourd'hui être en train de déplorer des milliers, voire même des centaines de milliers de décès de nos compatriotes. Parce que, à mon avis, la pandémie, la gestion sur tous les plans, que ce soit sur le plan scientifique, que sur le plan socio-économique et sur le plan politique, n'a pas été bien menée. Et j'ai observé ça de très près, hein, parce que je suis membre de la commission communication de la lutte contre le coronavirus, en tant que représentant de la communauté artistique. Et j'ai vu de près, il y a une sorte de pilotage abus. On a comme l'impression que le gouvernement subissait les ONG internationales, les organismes internationaux et les partenaires. Et je le répète, c'est vraiment la nature qui nous a sauvés. C'est la nature qui nous a sauvés. Ce ne sont pas...
Au regard de la situation actuelle.
Ah, bien sûr, ce ne sont pas les dispositions prises par nos autorités. On prenait beaucoup de temps à faire beaucoup de réunions. En tant que même la commission dans laquelle j'ai participé, on a fait une trentaine de réunions et moi j'ai décidé de ne plus participer à ces réunions parce que ça a donné rien. On a fait réunion sur réunion sur réunion. Il y a plus de 300 et quelques projets que les gens ont déposés pour participer à la lutte, mais aucun projet n'a reçu aucun financement. Même les artistes qui, de manière spontanée, ont créé des centaines d'œuvres, oui, et qui ont aidé à conscientiser la population, le ministère de la Santé n'a donné pas un seul franc à un seul artiste.
Merci beaucoup. Et c'est quoi la raison ? Nous allons revenir vers Dr Bantas, qui représente ici le ministère de la Santé. De votre côté, M. Mapenzi, l'Assemblée nationale a-t-elle un regard sur la gestion de cette pandémie ?
Oui, je vous remercie, Armando, de cette question. L'Assemblée nationale, bien entendu, l'un de ses rôles, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et il vous souviendra qu'au début de la pandémie, nous avons interpellé plusieurs fois le ministre de la Santé pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour barrer la route à cette maladie. Effectivement, je regrette un peu le propos de Gervais Lacosso, mon cadet, mon très cher cadet, mais ça c'est un regard de la société civile, mais tout regard doit être objectif. Voyez-vous, un pays comme la RCA qui a été cité en exemple, félicité par la direction générale du FMI pour sa gestion de la crise, il n'y a que 3 pays qui ont été félicités par le FMI. Il n'y a aucune institution au monde plus que le FMI qui est chargé de veiller sur la bonne gouvernance. Quand un pays est félicité par le FMI, je pense qu'il n'y a rien à redire. Deuxièmement, le Washington Post a demandé à ce qu'on décerne un prix Nobel à l'OMS en prenant comme exemple
la République centrafricaine.
Je pense que ça a le mérite de taire
tous les débats sur la question de pandémie. Bien entendu, cela n'exclut pas la situation que vit le personnel de la santé, que nous regrettons.
Et pas seulement le personnel de la santé, on va écouter aussi dans quelques instants la population.
Qui est entrée en grève, ça c'est leur droit. Je ne sais pas si toutes les mesures ont été prises pour que cette grève soit amorcée.
Les artistes aussi.
Et donc, je pense que, pour moi, sur un plan stratégique, politique, la RC a été citée en exemple. Et ça, c'est un mérite, il faut l'accepter.
Merci, on y revient avec vous, M. Mouamar Benguebossan, un conseiller en communication de l'ancien président de la République, François Bozizé, opposant. Quelle lecture faites-vous de cette situation?
Je vais essayer d'être bref. Je vais traiter ce problème en trois points. Par principe, on est porté au niveau du KNK, et moi-même, à titre personnel, en tant qu'homme de gauche, à soutenir ce mouvement de grève. Mais quand j'entends... Parce que pour nous, pour moi-même, la médecine, c'est un métier noble. C'est pour ça que j'ai imposé à plusieurs jeunes de ma famille ou de la famille de mes amis de devenir médecins. Et ils sont devenus médecins. C'est un métier noble. Mais quand j'entends le médecin qui est à ma gauche, notre frère,
oui, monsieur
dire
qu'ils
sont entrés en grève parce que du 5 au 22, ça fait à peu près 15 jours, ils n'ont pas été satisfaits financièrement, ça m'a choqué. Parce que nous sommes dans un pays pauvre. Le problème qui se pose d'un point de vue politique a un aspect structurel et un aspect conjoncturel. Si l'accord a été donné par le ministère des Finances qui a envoyé une note au niveau du ministère des Finances et que le gouvernement a donné son accord. Et comme nous sommes un pays extrêmement pauvre avec des tensions de trésorerie, parce que j'ai été au cabinet du Premier ministre Ngumba à l'époque du président Bozizé, j'étais à son cabinet quand il était vice-président, je sais comment fonctionne l'État centrafricain. Donc, ne pas supporter 15 jours d'attente. Moi, je ne suis pas d'accord.
Non, mais tout à l'heure, M. Dr Balois a parlé de 6 mois, je crois.
Vous avez dit 6 mois ?
Oui.
Ah, donc, j'ai mal compris.
Oui, c'est 6 mois.
Ah, ça m'aurait choqué.
D'accord.
Ok. Si c'est 6 mois, ok, ils ont raison. Maintenant, le fond du problème est à la fois structurel et conjoncturel.
Quelques secondes.
Quand je dis structurel, c'est que nous sommes un pays pauvre et sous-développé. Et quand on a une économie qui est saine, qui est prospère, et ça c'est de un, et que deuxièmement, on mène une politique de gauche, c'est-à-dire en faveur des plus démunis. Quand ce genre de pandémie, ce genre de catastrophe arrive, on est plus à même de résoudre le problème. Or, il se trouve que la RC est à la fois un pays sous-développé, pauvre, arriéré, et en plus, le gouvernement qui est en place est un gouvernement libéral. Et on sait que partout dans le monde, quand un gouvernement libéral est au pouvoir, il s'occupe beaucoup plus de l'aspect des plus aisés, et non des classes moyennes et non des classes pauvres. Ça, c'est l'aspect structurel. Maintenant, l'aspect conjoncturel. J'ai suivi à la radio, à la télévision, que la Banque mondiale, je sais pas, le FMI, la BEAC, la BDAC ont donné des aides à l'État centrafricain.
Oui, quelques secondes, je vous
appelle. Or, il se trouve que le Gabon voisin, dont je suis l'actualité, sur le Gabon 24, est un pays beaucoup plus riche que l'Est en termes de revenus par tête d'habitant. Mmh. Mais le gouvernement gabonais a aidé les pauvres en payant l'électricité, en payant l'eau, en soutenant les médecins, en triplant le budget de la santé, en aidant les petites et moyennes entreprises en difficulté. Or, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les taximens, ils pleurent, leur patron pleure, parce qu'on dit, et on a raison de leur demander de prendre un client.
Et même les usagers se plaignent.
Et oui, mais ça crée des difficultés aux propriétaires de taxi. Et l'État n'a jamais dit, bon, je vais subventionner les petites entreprises les plus fragiles. Rien du tout. Où va cet argent?
Le temps me manque d'aller plus loin. Mais où va cet argent? Je reviens vers vous, docteur Bantas. Où va cet argent? Combien vous avez encaissé au niveau du ministère de la Santé en chiffres pour lutter contre cette maladie en République centrafricaine?
Je vous remercie une fois de plus, Armando. À écouter les uns et les autres qui sont autour de cette table, on comprend la portée des intérêts manifestés à la riposte au Covid-19. Sur le plan de la gestion, lorsqu'on parle de la gestion, comme vous le savez si bien, il n'y a pas que la gestion des ressources financières. Justement, mon prédécesseur a parlé de la gestion scientifique qui, selon lui, pose problème. Mais il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des plans qui avaient été élaborés. Et la première ressource pour mener à bien un combat, c'est la ressource humaine. Parlons de la ressource humaine. Je vous disais tantôt qu'il y a un comité qui a été mis en place qui s'appelle Stratégie et Méthode. Ce comité, c'est un comité qui regroupe l'université de Bangui, qui est présidé par le doyen de la faculté des sciences de la santé, le professeur Grézengue. Dans ce comité, nous avons l'Institut Pasteur, nous avons le Laboratoire National, nous avons les partenaires qui œuvrent aux côtés de la République centrafricaine, qui sont là, qui examinent
tous les aspects scientifiques liés à l'évolution de la pandémie et qui font des propositions concrètes sur la base des évidences rapportées tous les jours afin de déterminer les mesures à entreprendre pour endiguer la pandémie. Tout à l'heure, l'intervenant qui m'a précédé...
Oui, en attendant, est-ce que vous pouvez répondre à ma question?
De manière concrète, par rapport aux ressources financières reçues par le ministère de la Santé, il faut savoir qu'au tout début de la crise, ce que le ministère de la Santé a reçu, ce sont des fonds de solidarité. Ce sont des hommes et des institutions de bonne volonté qui ont contribué pour permettre au ministère de la Santé de commencer la riposte. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons
des chiffres.
J'en viens. Oui. Nous avons enregistré un total de 89 millions de francs CFA. Millions de francs CFA venant des fonds de solidarité. Ça, c'est ce que nous avons. Des Centrafricains qui vivent là. Au niveau du gouvernement, nous avons eu au total 500 millions que le ministère de la Santé a eu à gérer. Le reste des fonds n'est pas géré directement par le ministère, de la Santé.
Et effectivement, je suis dans le regret de vous annoncer nous avons invité le représentant du ministère des Finances.
Si vous le permettez, d'après un fichier du RCPCA qui a été partagé à tout le monde, le RCPCA a pu recenser une somme totale de 79 milliards de francs CFA qui a été mobilisée pour la RCA dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et là, ce que je vous dis, c'est surtout en termes de prévision.
Oui.
Et un travail est en train de se faire.
En cash, ça n'existe pas pour l'instant.
En termes de cash, ça existe, mais par rapport à cela... Il y a un comité qui a été mis en place par le Premier ministre depuis le 22 juillet.
D'accord.
Et ce comité est en train de faire le suivi de ces ressources qui sont gérées
aussi
bien par le gouvernement par les ONG.
Je vais revenir. Monsieur Mapenzi, vous êtes ici, vous représentez, je voulais annoncer aux auditeurs qui nous écoutent, vous représentez le pouvoir public. En termes de cash, qu'est-ce qu'on a maintenant, aujourd'hui?
Bon, tout ce qui a été mobilisé jusqu'à aujourd'hui, plusieurs sources de financement, 14 milliards.
14 milliards,
dont 500 millions gérés par l'État. Le reste, ce sont les bailleurs
Font le dispatching, quoi.
Voilà. Ça a été géré à travers les ONG, l'OMS, UNICEF et les ONG. Vous savez, quand vous recevez des fonds des partenaires, il y a souvent une orientation qui a été donnée. Et donc, ce sont ces agences des Nations Unies qui gèrent cet argent-là. L'État n'a géré que 500 millions.
Merci.
Et la participation des particuliers, c'est comme le docteur l'a dit, c'est 89 millions que les fonds de solidarité contribués par les centres.
Merci beaucoup, monsieur Gervais Lacosse. Vous voulez répondre rapidement? Je vous donne deux minutes.
Je réponds. Peut-être il faut que je parle beaucoup plus calmement pour rassurer
l'honorable,
mon cher aîné. Vous savez, quand on dit que le FMI a félicité le gouvernement centrafricain, je tombe des nues. Je tombe des nues et je me demande à base de quoi le FMI peut-il féliciter le gouvernement centrafricain dans la gestion de la pandémie du coronavirus. La République centrafricaine est l'un des rares pays au monde qui n'a mis en place aucune mesure d'accompagnement en faveur des professions affectées par la pandémie, ni en faveur de la population.
Et c'est dans cette optique que vous avez remercié la nature tout à l'heure.
Bien sûr, c'est que j'ai remercié la nature. Et puis, et c'est vrai, le transport public, on en fait les frais. Toutes les professions libérales affectées par la pandémie n'ont reçu aucune mesure d'accompagnement. Et le cas spécifique de la communauté artistique qui non seulement est affectée par la pandémie, mais s'est engagée à participer à la lutte contre la pandémie, a été payée en monnaie de singe par le gouvernement. C'est-à-dire, on nous a fait faire des tas de projets. C'est le ministère de la Santé même parfois qui nous demande monter tel projet. On monte le projet, on amène, on nous donne zéro franc. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Et le comité dont parle le docteur et que l'honorable a précisé. Je suis désolé. Le GTSC est représenté, qui représente la société civile dans ce comité. Mais il y a un flou dans le travail de ce comité. À la première réunion, on nous a convoqués. Tout ce qu'on a mis dans l'ordre du jour, on était incapable d'exécuter l'ordre du jour parce
Et vous êtes aussi membre.
Ce comité de suivi.
Oui.
Mais je vous dis, à la première réunion, à la primature, il n'y avait aucun document de travail qui a été mis à notre disposition. On a renvoyé la réunion pour qu'à la prochaine réunion, on nous amène les documents de travail. À la prochaine réunion, la réunion était prévue à 12h. Nous, on est arrivé là-bas jusqu'à 12h45. Il n'y avait personne. Et nous, on est parti. On a appris que c'est plus tard à 14h que la réunion s'est tenue en l'absence de la société civile.
alors qu'on est membre de droit de ce comité. La réunion était prévue à 12h, elle s'est tenue à 14h.
Merci
beaucoup. On ne nous a pas fait participer à ça. Donc, je voulais conclure pour dire que il y a pour moi, il y a un flou. Et je pense que...
Il y a un flou dans la gestion.
Dans la gestion.
D'ici ou d'ailleurs.
Et cette félicitation du FMI, vraiment, je le mets en doute. Et j'aimerais avoir les éléments d'appréciation. Oui. C'est à base de quoi que le FMI
voilà, c'est à base
a
de
délivré
quoi
cette,
monsieur,
cette satisfaction
au gouvernement. Cette question, c'est à base de quoi? Docteur Balioua, dans quelles conditions le personnel soignant travaille actuellement pendant cette période de pandémie de coronavirus?
Oui, merci. Une fois de plus, je crois qu'au départ, les choses n'étaient pas réunies, les conditions de travail n'étaient pas réunies. Et c'est ce qui fait que sur les 4871 cas cumulés au jour d'aujourd'hui, vous trouverez 49 personnels de santé, toutes catégories confondues, qui sont devenus positifs. En plus de ça, sur les 49, il y a eu 2 décès.
Coronavirus.
Coronavirus.
Ah bon.
Un personnel à Berberati et un autre à Bangui. Alors cela témoigne qu'au départ, les conditions n'étaient pas réunies de sécurité. Ce n'est qu'après que le gouvernement a essayé de faire de son mieux pour trouver quelques cache-nez au personnel santé. Mais le cache-nez, c'est pas suffisant. Il faut des visières. Parce que le corona peut se transmettre également à travers les yeux. Donc les conditions ne sont pas réunies.
Les conditions ne sont pas réunies, mais quelles sont encore quelques conditions dont vous avez mentionné lors de vos revendications?
Je n'ai pas bien repris un peu votre question.
Oui, augmentation de salaire, quelles sont les autres revendications en tant que telles?
Oui, nos revendications, c'est sur 2 points. Mais le premier point, c'est en train d'être résolu. C'est-à-dire le problème de statut particulier des agents de santé. Nous sommes en pourparlers avec le ministère de la fonction publique qui, d'ici peu de temps, ce document va aller au niveau du Conseil des ministres. Mais là, présentement, ce que nous revendiquons, ce sont les primes de Covid-19.
Merci beaucoup. Monsieur Bengo Boussin, vous avez patienté, vous voulez reprendre la parole, mais oui, au regard de cette situation, en écoutant le représentant du ministère de la Santé, Monsieur Mapenzi aussi, qui représente le pouvoir public, et vous écoutez aussi Monsieur Lakosso qui parle de flou dans cette lutte contre cette pandémie de coronavirus, vous aussi, vous dites la même chose?
Oui, vous savez, votre radio est certainement la plus prestigieuse de ce pays, la plus crédible. Et quand il y a des débats sur Ndekeluka, tout le monde attend de savoir la vérité. Mais quelquefois, vous donnez l'impression, peut-être une impression, que vous coupez vite. On n'a même pas les 3 minutes que vous nous accordez.
Oui, je vous précise que j'ai le chrono en mètre, donc alors, je vous en prie.
J'ai entendu parler du FMI et de la Banque mondiale. Oui. C'est des organisations que je ne déteste pas par passion. On a souvent posé la question à ceux qui ont eu à occuper le poste de Premier ministre dans ce pays en leur disant ceci. Quel est le pays du tiers-monde? Quel est le pays d'Afrique qui a été conseillé par le FMI et qui est sorti de la pauvreté? Il n'y en a pas. Et donc, quand le FMI félicite un pays, c'est que ce pays joue contre les intérêts de son pays. C'est un organisme qui entretient la pauvreté, l'obscurantisme et la dépendance. Il croit que ça récolte là. C'est nos dirigeants qui ne veulent pas la vérité. Et quand les gens du FMI viennent, qu'ils nous laissent débattre avec eux.
Et ils bouffent dedans aussi.
Bien sûr. Ils sont payés par des services secrets des pays qui sont puissants pour qu'ils conseillent maladroitement nos gouvernements pour nous maintenir dans la pauvreté. C'est élémentaire en macroéconomie. Ils disent privatiser ceci, supprimer les barrières douanières, etc. Vous allez avoir 5% de taux de croissance. On n'a jamais eu 5% de taux de croissance. Quand je critique, je le fais de bonne forme. Je dis oui, j'ai reçu des SMS pour dire vous avez de la haine contre le président. Non, le président de la République est mathématicien. La dernière fois qu'on s'est vu en tête à tête, c'est le 23 mai 2019. Je lui ai dit, président, vous êtes mathématicien, je n'arrive pas à vous cheviller. Quand le FMI nous dit faites ceci, faites cela, depuis 1982 avec le président Kolingba, avec tous nos régimes, faites ceci, cela, vous allez avoir 5 taux de croissance. Donc on n'a jamais eu ça. Et de deux, même si on arrivait à avoir les 5% de taux de croissance, il se trouve que nos populations augmentent de 2,5% l'an. Il y a des mathématiciens, des économistes dans ce pays. Quand vous faites la projection, 5% de croissance économique sur 100 ans, 2,5% de croissance de la population sur 100 ans, on aura toujours moins de 2 700 $ par tête d'habitant. Donc on sera toujours un pays pauvre. Il faut avoir un minimum de 20 à 25% de taux de croissance pour devenir un pays riche rapidement en moins de 20 ans. Les exemples sont nombreux. Comme la Guinée équatoriale à côté de nous. À l'époque du président Kolingba, on avait 390 $ par tête d'habitant.
Quelques secondes.
La Guinée équatoriale avait 200 $. Vous savez quel est le revenu par tête d'habitant de la Guinée aujourd'hui? plus de 25 000 dollars par tête d'habitant. Quand ils ont sorti leur pétrole, 2-3 ans après, le 1er janvier 1996, ils ont multiplié les salaires par 4. C'est mondialement connu. Bon, nous, on n'exploite pas les richesses de notre pays. Quand le président Bozizé a compris, après 8-9 ans de pouvoir, qu'avec le FMI, ça ne marche pas, il faut sortir les ressources du sous-sol pour devenir riche, comme la Guinée équatoriale, comme le Nigeria, comme la Libye, comme l'Arabie saoudite, c'est les mêmes centrafricains qui ont prêté le
merci
flanc
beaucoup
à des puissances étrangères qui ont complété
merci
nous
beaucoup
mettre dans cette situation.
Merci beaucoup, monsieur.
Donc, quel que soit le pouvoir qui serait au gouvernement aujourd'hui, avec 135 milliards de francs CFA de recettes budgétaires, vous allez faire quoi pour la santé? 135. Donc, le problème est beaucoup plus structurel que conjoncturel.
Et nous parlons
les autres,
de cette lutte
les autres
contre...
ont 4 000 milliards.
Je vous en prie, oui.
4 000 milliards. Le Congo, le Gabon, le Cameroun, plus de 4 000 milliards de recettes budgétaires, nous on a 135 milliards.
Merci beaucoup. Nous parlons de tous les Centrafricains, même à Amdafo, Kandele et à Birao, dans cette lutte contre cette pandémie mondiale. Monsieur Mapenzi, vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Selon nos enquêtes, les députés ont reçu aussi des fonds pour la lutte contre cette pandémie. En base de quoi aujourd'hui les députés sont privilégiés que la population?
Dire que les députés sont privilégiés, je dirais non. En fait, nous avons reçu ce que nous avons reçu comme... appui dans la lutte contre la...
Appui financier.
Oui, dans la lutte contre la COVID-19 est insignifiant par rapport à ce que nous-mêmes nous avons investi.
C'est combien?
Mais cherchez à savoir, vous êtes journaliste.
Non, mais vous ne parlez pas à moi, vous parlez aux auditeurs qui vous écoutent.
Non, cherchez à savoir.
Vous parlez aux Centrafricains, vous dites à un Centrafricain délai d'aller comprendre ce que vous dites ici à Bangui.
Je ne veux pas créer de la polémique. Je dis, nous avons reçu de l'aide dans la lutte contre la COVID. C'est 600 000 francs par député, mais moi, j'ai investi plus de 5 millions dans ma circonscription pour cette lutte.
Rien que les députés, mais pas le personnel qui travaille avec vous.
Le personnel a reçu tout ce qu'il faut pour se protéger pour. Vous savez pourquoi on a donné aux députés, si vous voulez le savoir? C'est parce que dans chaque circonscription, le député, moi, j'ai distribué des milliers de masques. J'ai distribué à toutes les écoles, à toutes les églises de ma circonscription, les seaux, les cartons de savon et tout ça pour lutter. Donc, ce que j'ai investi, c'est parce que j'ai eu un retour de l'État. Mais moi, c'est une aide de l'État aux députés parce que l'État a su que les députés, chacun a fait des efforts pour le faire. Donc, ce n'est pas venu de manière superficielle. Maintenant, si je peux...
Oui, avancer, vous avez quelques secondes, monsieur.
Pour une fois, je suis d'accord avec mon frère Bengo Bossin qui reconnaît que la situation en Centrafrique est difficile. Et c'est justement pour ça que, malgré les situations difficiles, parce qu'on est dans une situation d'extrême pauvreté, que le Washington Post a dit, voilà un pays qui n'a pas les moyens, mais qui a réussi à contrer cette pandémie. Et donc, il félicite la RCA. Et le FMI, grâce à la gestion de ces fonds alloués, c'est l'État n'a géré que 500 millions.
Mais M. Bengo Bossin autres, a dit que le FMI aussi mange dedans.
Non, ça, moi je n'en sais rien. C'est à lui de poser la question. Mais pour qu'on devienne riche, Bengo Bossin le sait plus que quiconque. Pour qu'on devienne riche, il faut exploiter nos ressources. Ce n'est pas avec les recettes de douane, des impôts, qu'on pourra développer le pays comme on veut. Et vous connaissez, vous savez pourquoi.
Quelques secondes.
Voilà. Donc, et je reviens
on,
à la
on ne sait pas pourquoi. Expliquez-nous, s'il vous plaît.
Moi, je réponds à cette question. Bengo Bossin, qui a eu à gérer ce pays avant, hein, qui a été dans les cabinets de Ngumba, la primature, à la présidence, et aujourd'hui, conseiller en communication du KNK, qui a géré le pays 10 ans, il sait mieux que moi. Et si mon frère Lacosso ici dit qu'il ne sait pas pourquoi le FMI a félicité, mais bien sûr, c'est au vu de cette gestion financière. Vous savez, quand on parle de milliards, il y a un nouveau centre hospitalier. On est en train de construire de nouveaux centres, notamment au PK24, le site de l'ancienne léproserie. On a réhabilité certains pour contrer cette maladie. Il y a eu des infrastructures qui ont été créées, notamment plusieurs forages pour avoir accès à l'eau.
D'accord, aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mapenzi. Docteur Hugues Balewa, vous représentez le personnel soignant, vous êtes syndicaliste. Vous voulez réagir très rapidement au
très
propos
rapidement.
De...
Oui. Très rapidement, c'est par rapport au masque.
Oui.
Je crois qu'on n'est pas sérieux dans ce pays. Le chef de l'État a promis 10 millions de masques pour 5 millions d'habitants.
Donc ça veut dire que deux par personne.
Deux par personne. Au jour d'aujourd'hui, l'honorable est là. Est-ce qu'il peut me dire la main sur le cœur que la population de Cabo a reçu ses masques?
Oui, vous pouvez
la
répondre.
La distribution non, était anarchique.
Oui.
Et c'est devenu du business.
Et si vous, moi, si vous permettez, vous pouvez répondre rapidement à cette question et puis vous allez répondre la parole, monsieur Dr. Balewa.
Ça m'étonne venant d'un professionnel de santé. Il est du ministère de la Santé. Moi, je suis député à l'Assemblée.
Et vous représentez la population, oui.
Je représente la population. Oui. C'est parce que mes populations de Mimbodo n'ont pas eu de masque, je les ai achetés pour leur donner.
C'est parce que vous avez le moyen de
pour donner.
Mais à Mimbodo 5 aussi, on n'a pas eu.
La distribution des masques, oui. C'est, je suis désolé, c'est le ministère de la Santé en partenariat avec les autres
organismes. Oui, d'accord. Font. Merci.
Et donc ministère... ça, je ne saurais répondre à ça.
Oui, vous pouvez continuer.
Donc, il reconnaît la faillite du ministère de la Santé.
Oui,
donc
mais le ministère de la Santé, monsieur docteur Bantas, vous êtes là. Combien de masques ont été déjà distribués à tous les Centrafricains, comme a promis le président de la République?
Effectivement, le président de la République a promis des masques.
10 millions,
deux masques par habitant.
10 millions de masques, deux masques par habitant. Mais il faut savoir que distribuer des masques nécessite toute une stratégie. On ne va pas se mettre à distribuer à l'appel au hasard. Il faut s'organiser pour le faire.
Mais depuis quand? Oui.
Aujourd'hui, je peux vous dire que les masques ont été distribués à Bangui. Les masques ont
seulement
été...
à Bangui, hein?
Non, j'en viens. À Bangui, les masques ont été distribués. Dans la Sangam Bayere, ça a été distribué. À Berbérati, ça a été distribué. À Bombari, Bosangwa, Aba, ça a été distribué. Mais il faut savoir pourquoi on a distribué ces masques dans ces régions. Il y a des raisons qui sous-tendent cela.
Oui, c'est quoi?
La première raison, oui, c'est par rapport au nombre de cas déclarés. Il y a des districts qui sont dits des districts prioritaires parce qu'ils ont plus de cas déclarés que les autres. Ça, c'est la première
raison. C'est seulement
raison.
Bangui, hein?
Non, les districts, il y a 35 districts, oui, pour la RCA. La deuxième raison, c'est l'état de préparation des districts. Comme je vous disais d'entrée de jeu, on ne distribue pas les masques à l'appel. Il faut s'organiser pour distribuer les masques.
Mais vous parlez de l'organisation. Quand sera cette organisation?
Justement, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une décentralisation de la prise en charge. Tout n'est pas géré au niveau central. C'est pour ça que les districts doivent s'organiser pour que ces distributions se fassent. Là où les masques ont été distribués, ce sont des endroits où les districts ont fait leur plan de distribution et les distributions ont eu lieu là. En plus de ça...
Prenons le cas de Bangui où nous vivons. Dans mon quartier, dans mon arrondissement, si des masques avaient été distribués deux par citoyen, je l'aurais su. Même si je n'en recevais pas, bon, je le saurais.
Oui, monsieur Bengo-Boussin, oui, continuez, monsieur Bantas.
Alors, vous savez, dans toute stratégie de masse, il peut y avoir quelques failles. Oui. Moi, j'habite Bangui, mais j'ai reçu les masques.
Mais c'est parce que vous êtes docteur, n'est-ce pas?
Pas du tout. Ceux qui sont passés chez moi ne savent pas que je suis médecin.
Et moi non plus, je n'ai pas reçu chez moi.
Bien au contraire, lorsqu'ils sont passés, je me suis amusé à leur poser des questions en faisant comme si j'ignorais tout de la santé.
Merci beaucoup. Si vous me permettez, nous allons écouter les avis des Centrafricains sur cette gestion de Covid-19 en République Centrafricaine. Écoutons.
Le gouvernement ne tient plus compte de ça. Même dans les bureaux, certains bureaux, lorsque tu pars, tu ne vois pas que les gens portent les masques. Chacun s'en fout, dit que ce n'est pas chez nous, ainsi de suite.
Je crois que les mesures édictées par les autorités ne sont pas respectées. D'abord, même ces autorités eux-mêmes ne respectent même pas ces mesures. Et on ne sait pas la question qui reste à poser. Est-ce que cette maladie existe réellement en Afrique? Parce que si on voit chez les Blancs, on voit chez nous ici, cela sous-entend que cette maladie n'existe pas en Centrafrique. Ces autorités ne rendent pas compte d'une manière normale de cette gestion.
Cette maladie n'a pas vraiment fait de ravage en République centrafricaine parce que malgré que les gens ne respectent pas les mesures barrières, mais cette maladie ne se propage pas tellement dans la République centrafricaine.
Il y a le Covid-19 en République centrafricaine, mais la gestion n'est pas normale.
Le gouvernement même fait telle sorte que les Centrafricains lambda ne croient pas à l'existence de cette maladie dans notre pays. Les subventions qu'il a reçues, il n'a même pas pu mettre ça à la disposition de sa population.
Je crois bien que les masques étaient distribués à la majorité de la population centrafricaine, mais c'est l'utilisation qui cause problème. Et moi, j'ai eu le masque et parfois j'utilise, mais ce n'est pas chaque fois.
Si nous constatons la régression de la pandémie de Covid-19, précisément en République centrafricaine, nous avons quand même dit qu'il y a peut-être des mesures qui sont respectées, bien qui sont édictés et qui endiguent la progression de cette maladie dangereuse dans notre pays.
Il n'y a plus de corona.
Maintenant, de nos jours, les gestes barrières ne sont plus respectés parce que dans la tête des Centrafricains, ils ont oublié que cette pandémie existe.
J'ai reçu deux masques.
Lorsqu'il n'y a plus les cas, maintenant, c'est la liberté. Le Covid-19 n'existe pas, donc chacun fait ce qu'il veut. Même au sein de l'université, plus question de masques. Dans les salles, on ne porte pas les masques. Dans les taxis...
Voilà, vous écoutez les Centrafricains, les avis des Centrafricains. Monsieur Gervais Lakosso, vous qui représentez aussi les Centrafricains en tant que société civile, quel commentaire faites-vous? Est-ce que vous aussi, vous êtes tenté de dire que le coronavirus n'existe pas en Centrafricaine?
Non, je ne peux pas dire ça. Je suis
intellectuel, je ne peux pas dire ça, mais vous voyez que l'avis de l'homme de la rue corrobore avec ce que j'ai dit ici. Le coronavirus existe bel et bien, c'est une réalité scientifique, mais nous avons été sauvés par la nature, par le bon Dieu, par peut-être notre croyance. Parce que si vous imaginez, si ce qui se passe en prenant un pays très ami à nous comme la France, si malgré toute leur organisation, malgré toute leur technicité, vous voyez ce qui se passe là-bas. Si cette pandémie se déployait ici chez nous, je dis Dieu merci que ce n'est pas arrivé. Alors, je profite de mon temps de parole.
Vous avez encore une minute.
Voilà. Et pour dire que l'un des exemples pour dire que nous avons été sauvés par le bon Dieu, par la nature, c'est vous avez vu la méthode, la stratégie utilisée pour distribuer les masques. Le ministère de la Santé se comporte comme si on n'est pas dans une situation d'urgence. C'est comme si on ne devrait pas protéger rapidement la peau. Imaginez si cette pandémie se transmettait rapidement dans notre pays comme ailleurs. Mais le temps qu'ils mettent pour distribuer ces masques, mais la maladie se serait déjà... Tous les 5 millions de Centrafricains auraient pu déjà attraper la maladie. On prend tout son temps, on fait les choses comme s'il n'y avait pas d'urgence. Et il disait ici que dans la lutte, il faut mettre en avant les ressources humaines. Mais moi, je vous dis que j'ai été proche de ce travail parce que j'étais membre de cette commission. J'ai fait plusieurs tours au ministère de la Santé. Je vous dis que le personnel de santé n'ont pas été entretenu comme il se doit. Et sur le plan global, quand vous voyez par exemple l'un des exemples de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise vision de l'utilisation de ces fonds, quand on donne une dotation de 600 000 francs par député, alors que ce n'est pas une profession affectée par la pandémie.
Et les médecins,
qui sont au front, on ne leur donne rien.
Les militaires, les considère comme les militaires.
Voilà, les artistes
parce que nous sommes en guerre,
qui sont une profession affectée et qui ont participé à la lutte contre la pandémie en composant des chansons, des sketchs, des films, on leur donne rien.
Et donc ce sont les autorités qui privilégient la
politique. Mmh. Et puis, je vais vous donner un exemple. Hein, parce que nous sommes le monde s'est globalisé. Nous suivons les informations. Il y a un pays africain qui aurait pu mériter avoir les félicitations du FMI. C'est le Tchad. C'est le pays qui, face à la pandémie, a pris des dispositions. Elle s'est mise en guerre contre la pandémie. Le gouvernement a sorti de l'argent, des mesures d'accompagnement. Ils étaient les premiers à arriver à zéro cas par leur force. Or, nous, c'est la nature nous a sauvés. Merci. Et c'est beaucoup. Pour ça que je dis que cette félicitation de FMI, là, j'aimerais rencontrer les techniciens de FMI qui nous présentent. Je ne dis pas que c'est forcément faux, mais je n'y crois pas.
Oui, pour que vous ayez des explications, on va chercher. Monsieur Benguebossin, hein, est-ce que le gouvernement, vous constatez un relâchement de la part des autorités dans cette lutte contre cette maladie mortelle?
Si on parle de relâchement, c'est que le gouvernement était d'abord au front. Sincèrement, en février, quand j'ai suivi les médias internationaux qui parlaient de cette pandémie qui a surgi d'abord en Chine, etc., je me suis dit, le 11 avril, j'étais au bord du fleuve à la terrasse de l'hôtel Oubangui avec une personnalité de haut rang de Kenka, on échangeait. Et cette personnalité, qui a une longue expérience gouvernementale, avait le même point de vue que moi. Au mois d'avril, on se disait, tiens, mais ce qu'on a appris au mois de février, pour nous, en avril, la population centrafricaine serait décimée. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que c'est facile de dire arrêté ministériel ou décision du président de la République, confinement. En Centrafrique, vous allez confiner les gens, comment?
Mais le déconfinement d'une manière disparate.
Oui, non, mais le confinement d'abord. Le confinement, les Centrafricains n'ont pas de chambre froide. On n'a pas de supermarché avec de chambre froide. Les Centrafricains n'ont pas l'électricité. Ils n'ont pas de congélateur. Peut-être 10-20% de la population. Vous allez confiner comment? Les gens vont rester à la maison, ils vont manger comment? Ils vont vivre comment? Le confinement est impossible. Je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons structurelles. Et pour reprendre ce que dit mon cadet de la société civile, en fait, Dieu est un super scientifique. Les gens n'en ont pas conscience. Et je crois que si la pandémie n'a pas fait des dégâts chez nous, c'est parce que notre organisme a développé des anticorps que la médecine moderne actuellement n'a pas, dans l'état actuel des connaissances, la médecine ne comprend pas encore. Parce que cette pandémie est arrivée ici. Ça devait décimer les gens. Parce que les gens se mettent à 3 sur les motos, malgré les mesures prises. Les gens se mettent à 5 dans les taxis. Et ce n'est pas un relâchement. Ça a toujours été comme ça. Et s'il n'y a pas eu de dégâts, comme je le disais, c'est parce que il parlait de nature, donc c'est Dieu. C'est parce qu'on a, on a certainement développé des anticorps qui nous protègent. Ce n'est pas les mesures du gouvernement qui nous ont
protégés. Oui, oui, monsieur Bartas, vous qui représentez le ministère de la Santé ici, vous dites la même chose. Est-ce que c'est la nature qui protège maintenant le peuple centrafricain vis-à-vis de cette maladie?
Et non le gouvernement.
Bon, il y a une chose qu'il faut savoir. Dans un premier temps, je suis scientifique. Les scientifiques vont d'abord sur la base des évidences, même si je suis croyant. Okay, on part sur la base des évidences. Parlons de ça. La stratégie que le ministère de la Santé a utilisée dans un premier temps, c'est quoi? Lorsque les premiers cas de corona ont été enregistrés en République centrafricaine, on s'était rendu compte que la majorité des cas venaient du corridor Bangui-Douala. Mmh. Et donc, par rapport à ça, de la Santé a pris des mesures. Le ministère de la Santé a été plus agressif en faisant un dépistage systématique de tout voyageur venant de cet axe. Et là, lorsque les personnes avaient été dépistées, on leur demandait d'être en auto-confinement. Et donc, la stratégie du ministère de la Santé aujourd'hui, c'est de rendre autonomes les communautés de sorte qu'ils prennent des décisions eux-mêmes pour leur propre santé.
Mais vous avez écouté les avis des Centrafricains. Que dites-vous de cela?
Des avis des Centrafricains. Justement, il faudrait qu'ils s'auto-prennent en charge. Les uns et les autres l'ont dit, la pandémie est une réalité. Moi-même, j'ai souffert du corona. Quand j'étais malade, tout mon personnel, toute ma direction était tombée malade. On a dû fermer notre porte de la direction pour travailler. Et donc, parlant de cela, oui. Ce que nous recommandons au peuple centrafricain, c'est d'observer les mesures barrières. A priori, on a l'impression, c'est une fausse impression que l'infection ne circule pas, mais d'après des études observationnelles qui ont été faites par l'Institut Pasteur et le Laboratoire National, il a été démontré qu'au moins 10% des personnes qui circulent dans la ville de Bangui ont une infection en cours de développement. Et au moins 30% ont déjà contracté la maladie. Si vous le permettez,
oui, allez-y,
si vous le permettez.
C'est intéressant, oui.
Parlant de la gestion des ressources dont M. Lacosso parlait tout à l'heure, le comité a été mis en place, je l'ai dit tout à l'heure, le 22 juillet. Il s'agissait de la première réunion du comité. La première réunion du comité, c'était de donner des orientations. Au cours de cette réunion, si M. Lacosso était effectivement dans la salle, il devrait nous dire que le ministère de la Santé a donné toute la documentation sur la gestion des ressources à sa disposition, mais le comité a jugé qu'il ne fallait pas présenter seulement la situation d'un secteur. Il fallait présenter une situation globale. C'est comme ça que le comité a donné des orientations pour la seconde réunion. Mais je voudrais, une fois de plus, dire à M. Lacosso également qu'il faut détenir les bonnes informations. La deuxième réunion n'a pas eu lieu simplement parce que la plus grande salle au niveau de la primature où nous tenons ces réunions avait été occupée par le Premier ministre.
Merci beaucoup.
Réunion de cabinet. Oui. Et au lendemain, une réunion s'est tenue au ministère des Finances avec les représentants de la Banque mondiale et autres pour
qu'on donne des
orientations.
Attendez un peu, docteur. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui où il n'y a pas de dépistage en ce moment? Est-ce que le dépistage se poursuit? C'est quoi la raison?
En effet, le dépistage se poursuit, mais c'est la stratégie qui a changé. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on faisait un dépistage systématique. Ce dépistage est très coûteux. Nous faisons la politique de nos moyens. Et donc, aujourd'hui, la stratégie est que nous faisons un dépistage passif, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent à l'hôpital et qui présentent des signes évocateurs du corona, c'est ceux-là qui sont orientés pour un dépistage. Nous essayons d'aller également au niveau communautaire. Ça, c'est notre stratégie phare aujourd'hui pour qu'une détection soit faite au niveau de la communauté à travers les signes évocateurs et que ces personnes-là puissent être orientées. Mais nous mettons un accent particulier sur ceux qui sont porteurs de maladies chroniques,
mais
parce
déjà,
que c'est ceux-là qui sont plus vulnérables.
Mais des voix s'élèvent pour dénoncer qu'il y a de frais à payer pour le dépistage. Est-ce que vous êtes au courant? Si oui, pourquoi?
Oui, je suis au courant. La stratégie du ministère, du gouvernement, c'est de subventionner les tests pour les gens dont la vie est en danger et pour ceux qui sont malades.
Donc, ce n'est plus gratuit, alors
Je viens de dire, pour ceux dont la vie est en danger et pour ceux qui sont malades. Mais pour ceux qui font un dépistage systématique, par exemple, les voyageurs qui viennent ou qui sortent lorsqu'ils sont symptomatiques, en ce moment, s'ils veulent ne pas observer le confinement, en ce moment, ils payent de leur poche les examens, ils adressent une demande au ministère de la Santé.
Et ça va prendre du temps ?
Non, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ils doivent au préalable faire un test 24 heures avant d'adresser la demande au ministère de la Santé, qui leur répond. Et puis, on les met en quarantaine pendant une semaine. Ils reprennent l'examen encore. S'ils sont négatifs, alors en ce moment, on peut les autoriser.
D'accord. Monsieur Ngoboussin, vous pouvez poser votre question rapidement.
Oui, le représentant du ministère de la Santé semble avoir des chiffres et des statistiques. Mais il vient de dire quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il y a des études observationnelles qui sont en cours et que les résultats, c'est qu'on a entre 10 et 30% de la population de Bangui qui est contaminée. Je ne sais pas si je l'ai bien compris.
Oui.
Bon, ça veut dire qu'il avoue l'échec de la politique du gouvernement. Parce que je lui renvoie la question. S'il vous plaît,
oui,
c'est une question technique.
C'est une question technique.
Vous voyez les dégâts que ça fait aux États-Unis, au Brésil et en France. Ça n'atteint pas 10% de leur population. Vous voyez les dégâts que ça fait. Si chez nous, il y a 10 à 30% de nos populations au niveau de Bangui qui sont contaminées, c'est que quand les morts vont commencer à tomber, ça va être grave.
Monsieur Bengoboussin, est-ce que vous pouvez permettre au docteur Bantas que vous voulez réagir ? Vous voulez recadrer.
Okay. Merci. Justement, je voudrais recadrer cela. Lorsque je parle des 10%, ce sont ces chiffres-là qui permettent de dire « Attention, le corona n'est pas fini en République centrafricaine. Faites attention, continuez à observer les mesures barrières. »
J'entends bien, mais ça veut dire que c'est l'échec du gouvernement.
Non, pas du tout. Mais
ailleurs, ça n'était pas le
30%. Non. Le corona est une pandémie.
Dites-moi si au Tchad, au Gabon, en France ou aux États-Unis, ça atteint 30% de la population. La réponse est non.
C'est largement de cela. Non, il faut savoir ceci. Oui. Je disais tout à l'heure que c'est des études sérologiques. C'est-à-dire qu'à partir des personnes qui sont parties se faire prélever, on a retrouvé des traces de maladies dans leur sang. Il faudrait contextualiser les choses.
Quelle maladie ? Nous parlons du coronavirus.
Nous parlons du coronavirus, bien entendu.
Oui, M. Mapenzi, vous voulez réagir au propos de M. Bengoboussin ?
Oui.
Quelques secondes, je vous en prie.
Il faudrait qu'on fasse attention pour ne pas tomber dans le déni. C'est-à-dire tout nier, même quand c'est vrai. Docteur est en train de dire 10% des gens testés, pas 10% de la population centrafricaine. Ensuite, il ne faut pas nier pour nier.
Vous avez une minute. Hein.
Oui, laissez-moi le temps de répondre.
Non, juste sur le temps, on n'a pas le temps, je vous en prie.
Il ne faut pas nier pour nier. Vous savez,
Laissez-moi répondre après. 10% des personnes testées, c'est bien entendu.
Une stratégie marche. On pense que c'est la nature, brusquement. Bengoboussin devient croyant, il dit c'est Dieu.
Mais je suis musulman, je ne deviens pas brusquement croyant.
Alors que les institutions, le FMI dit, je vous félicite, Washington Post dit, voilà un pays pauvre.
Mais c'est leur rôle entretenir l'obscurantisme.
À contrer, et pour cela, on devait décerner le prix Nobel à l'OMS pour l'exemplarité de la lutte contre la Covid en lui centrafricain qui est un pays pauvre. Là, les autres refusent. Eh bien, proposer quelque chose. Bon, il ne suffit pas. Il ne suffit pas de tout nier.
Je propose.
Quand quelqu'un fait un progrès, il faut l'accepter.
Pour proposer.
Une minute. Vous savez,
moi je suis objectif. J'aime mon pays. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Quand ça va, je dis ça va. Vous voyez le Congo et d'autres pays africains. Ils forment des centaines de médecins par an. Je parle sur le contrôle. On forme combien de médecins par an ici? On a un médecin pour 17 000 habitants. Cuba, c'est un pays pauvre qui n'a pas le pétrole. C'est le champion du monde en matière de formation de médecine. Je vends. Ils ont en moyenne un médecin pour 150 habitants. Mieux que dans les pays développés comme les États-Unis, un médecin pour 300 habitants.
Merci, oui.
Nous formons combien de médecins par an? Il y a des pays qui donnent la facilité aux pays d'Afrique de former des médecins ou d'envoyer des médecins. Le Mali reçoit des médecins du Cuba. Le président Touadéra, il a fait venir 5000 médecins ou 2000 médecins du Cuba. J'applaudirais, je le reconnaîtrais. Le Congo, chaque année, forme à peu près 300 médecins qui rentrent de Cuba. On l'a fait ici. Le président, là, il a construit combien d'hôpitaux? Je ne suis pas RDC, mais le président Colin a construit l'hôpital de l'amitié. Il a construit l'hôpital communautaire. Je suis objectif.
Oui, docteur Balois, vous représentez toujours le personnel de la santé. Vous avez 30 secondes pour vraiment donner votre point de vue puisque vous voulez réagir.
Oui, je voudrais réagir parce que il y a l'honorable qui est là et c'est eux qui votent souvent les budgets. Alors, quelle part ils ont donné au ministère de la Santé pour la lutte contre le coronavirus. Au jour d'aujourd'hui, sur les 48 771 cas, dont 1984 guéris, il reste 2937 cas qui ne sont pas encore guéris et qui sont là en train de propager peut-être la maladie. Il y a de cela 48 heures, le CDC, c'est-à-dire une cellule africaine de l'Union africaine pour la santé, a dit qu'il y aura une seconde vague.
Voilà, en Afrique.
En Afrique. Donc, prenons garde.
Prenons garde. Alors,
monsieur l'honorable, il va falloir discuter, donner un budget consistant au ministère de la Santé pour un dépistage de masse.
Voilà, un dépistage de masse. Oui, dernier mot, monsieur Bantas, vous représentez le ministère de la Santé.
Ok, merci. Dernier mot, c'est de rassurer nos compatriotes et particulièrement monsieur Lakosso que la RCA n'a pas été félicitée pour rien. Les institutions qui donnent des points de vue, c'est sur des bases, je dirais, rationnelles. Vous prenez par exemple pour la gestion du Covid. L'ONU SIDA, dans son rapport, a dit que la gestion du corona en RCA est basée sur le droit. On ne fait pas de discrimination.
Sur ça, le droit.
C'est la déclaration de l'ONU SIDA.
C'est même offensant.
Oui,
alors,
vous allez reprendre.
Alors, oui. U-Report dit que le niveau de connaissance de la maladie est élevé en République centrafricaine à partir d'une enquête qu'ils ont réalisée. Il y a autant d'éléments qui font qu'on arrive à gérer la situation. C'est parce que on va sur des évidences, nous sommes proactifs, nous anticipons les choses.
D'accord, merci beaucoup. Oui, monsieur Gervais Lakosso,
j'aimerais dire 30 secondes. Aux autorités du pays et à ceux ici qui représentent le pouvoir qu'il faut beaucoup plus tenir compte des avis de la population que des avis des organismes internationaux. Passer les avis de la population, c'est la réalité. Et mon avis, ce n'est pas l'avis de M. Benguebossé, qui est de l'opposition. Mon avis est un avis réaliste. Quand c'est bon, je veux dire que c'est bon. Quand U-Report dit que la population a eu beaucoup plus d'informations, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Non. Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'implication des artistes qui ont divulgué les informations sur le coronavirus. J'ai participé à cette enquête. Mais je vous ai dit, et quand je dis que c'est offensant quand l'ONU SIDA dit que ça a été géré à base de droit, voilà des gens, un corps de métier qui a été, quelle est l'expression qui est utilisée, affecté par le coronavirus et qui a participé activement à la diffusion des messages, mais qui a été mis de côté, qui a été oublié, qui n'a pas eu un seul copec de la part du gouvernement. Et on dit que ça a été géré à base de droit. Mais n'exagérons pas les choses.
D'accord,
nous ne sommes pas des opposants du gouvernement, mais il faut tenir compte des avis de la population. Quand la population apprécie, ça veut dire que c'est bon, c'est mieux. Parce que ces organismes-là, ils écrivent ces rapports-là parfois pour eux-mêmes aussi, pour se donner de bons points devant leur hiérarchie.
Oui, M. Bengobo, c'est 30 secondes, je vous en prie.
Oui, c'est juste pour poser des questions. Notre frère, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, va répondre politiquement. Et notre frère médecin représentant du ministère de la Santé répondra techniquement, scientifiquement. Si on met de côté, parce que la politique de la santé d'un gouvernement, ce n'est pas seulement par rapport au Covid. Supposons que le Covid ne soit pas venu, ou bien que le président Touadéra ait été au pouvoir à une autre époque. Qu'on nous dise, on veut bien être convaincu que la politique de santé du gouvernement est la bonne ou est meilleure que celle des régimes précédents. Qu'est-ce que le pouvoir a fait concrètement? Il a construit des hôpitaux, il a formé plus de médecins. Le nombre d'habitants par lit d'hôpital, c'est combien? Et si on nous donne des chiffres en 5 ans ou en 4 ans et demi, voilà ce que le pouvoir a fait, on se mettra à genoux.
D'accord.
Je les écoute.
Voilà, vous avez 30 secondes, monsieur Mapenzé.
Non, vous savez, généralement, la lutte contre cette pandémie a été bien menée en Centrafrique. Les institutions internationales, l'étranger l'a reconnu.
Non, j'ai dit faisons fi de cette maladie.
Non. Monsieur Bengo, c'est comme il a encore du temps, oui, allez-y. Maintenant, vous avez 30 secondes.
N'en déplaise aux opposants qui s'opposent à tout, ou à une certaine société civile qui critique tout.
On ne fait que répéter ce que dit la population. Dites
mais non,
gagnez du temps, monsieur Mapenzé, calmez-vous.
On va se mettre à
jour.
La population, l'homme de la rue, n'est pas spécialiste, il ne sait pas quels sont les principes de gestion des fonds alloués. Ils ne savent pas.
Allez-y.
Et donc, moi, je pense que cette lutte a été très bien menée en Centrafrique. c'est vrai qu'il y a certains efforts supplémentaires à faire, mais ça, et ça a été mené ensemble, gouvernement et ONG, et c'est lieu ici de féliciter ces ONG, et tout ce qu'a fait le gouvernement, c'est au crédit du gouvernement, mais et le mérite frère, revient.
Nous voulons des chiffres, des statistiques.
Respectez les autres quand ils parlent.
Oui, allez-y, vous avez posé la question.
On veut des chiffres et des statistiques.
Monsieur Mapenzi, on se mettra à genoux. Oui, monsieur Bengebosa,
vous savez cette
vous lutte, le laissez répondre.
Vous savez cette lutte est basée sur deux choses. Un, freiner la propagation. Et deuxièmement, réduire considérablement la mortalité. Et c'est ce qui a été fait. Non, même si les gens ne voient pas, c'est ce qui a été fait et c'est ça l'essentiel.
Merci.
Et cette politique, le docteur l'a dit, est adaptée selon nos moyens.
Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat politique Patara. Nous avions débattu de la gestion de la pandémie de Covid-19 en Centrafrique et nous avions la participation du docteur Ghislain Bantas, représentant du ministère de la Santé publique. Monsieur, merci d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Docteur Hugues Benjamin Baliwa, représentant du syndicat du personnel de la santé. Merci aussi à vous.
Merci Armando.
Monsieur Gervais Lacosso, coordinateur du groupe de travail de la société civile, merci d'avoir participé à ce débat.
Merci.
Monsieur Mouamar Benguebossin, politologue et conseiller en communication de l'ancien président François Bozizé, opposant. Monsieur, merci aussi à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Et monsieur Jean-Symphorien Mapenzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, cadre du MCU, parti du président de la République, François Kantouadéra. Merci aussi à vous, messieurs.
Merci Armando et merci à tous les auditeurs de Radio Tekeloko.
Voilà, c'était au micro Armando Yangindi et à la manette Starcis Banga. J'ai bénéficié du conseil technique de Stéphane Flemal et Claire Assamba et Rodrigue Leroy Benga. Portez-vous bien, au revoir. Mobilisons-nous contre cette pandémie qui continue de sévir dans notre pays.